Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 24 septembre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Nouveaux enlèvements dans le nord-ouest du Burkina Faso. On soupçonne des djihadistes.
Journée sans activité ce lundi à Beni après les massacres commis samedi par les ADF.
Graves inondations et colère à Bangui après les pluies diluviennes tombées hier sur la capitale centrafricaine.
Funérailles nationales hier en Tanzanie pour les 224 victimes la semaine dernière du naufrage du ferry sur le lac Victoria.
Ici aux États-Unis, une deuxième femme accuse d'inconduite sexuelle le juge Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême.
Le président américain Donald Trump cette semaine à New York à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, trois hommes, un Indien, un Sud-Africain et un Burkinabé travaillant pour la mine d'or d'Inata dans le nord-ouest, ont été enlevés par des hommes armés dimanche alors qu'ils tentaient de rallier la ville de Djibo, a appris l'AFP de sources concordantes. Leur véhicule a été retrouvé sur l'axe Inata-Djibo par une patrouille de la gendarmerie qui a essuyé des tirs ennemis, selon une des sources. Aucun bilan de cet accrochage pour le moment. Les ravisseurs, qui se sont dirigés vers la frontière avec le Mali, sont probablement des membres des groupes djihadistes qui sévissent dans la région, a indiqué une autre source sécuritaire à Ouagadougou. Il s'agit du troisième cas d'enlèvement d'expatriés au Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, la société civile de Beni a appelé à une journée sans activité ce lundi, après le massacre samedi d'au moins 18 personnes dans cette ville du Nord Kivu, dans l'est du pays. Ces tueries ont été imputées aux rebelles islamistes ougandais des ADF. Notre correspondant Charlie Kasereka fait le point.
Des 18h jusqu'aux environs des minuit samedi, des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues selon les témoignages recoupés par VOA Afrique dans la ville de Beni. L'attaque visait un camp militaire se trouvant dans les quartiers Païda à l'est de la ville. Dans ces échanges de tirs d'environ 6h, l'armée congolaise mentionne un bilan d'au moins 18 personnes tuées, parmi lesquelles 4 militaires et 8 blessés qui suivent les soins à l'hôpital de Beni. Les bilans seraient encore plus lourds selon la société civile locale qui signale aussi des personnes disparues dans la foulée. Plusieurs dégâts matériels sont aussi signalés, des maisons incendiées, véhicules et motocyclettes calcinées par les assaillants avant de se volatiliser dans la nature. Craignant pour leur sécurité, plusieurs familles habitant les quartiers attaqués se sont déplacées vers les centres-villes de Beni dans des familles d'accueil en attendant la fin des patrouilles militaires. L'un des responsables de la société civile, contacté par VOA Afrique, présente ses inquiétudes suite à cette attaque menée cette fois-ci en plein centre-ville de Beni, ajoutant d'ailleurs que la journée de ce lundi est décrétée journée sans activité pour compatir avec les familles éprouvées par ces derniers massacres. Charlie Kasereka, Goma, pour VOA Afrique.
En République centrafricaine, plusieurs quartiers de Bangui, la capitale, frappés par de fortes inondations. Des centaines de maisons se sont écroulées et de nombreuses familles sont sans abri à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues hier après-midi sur la ville et sa périphérie. De Bangui, compte rendu de notre correspondant Freeman Sipila.
Les secteurs les plus touchés sont les 5e, 4e et 8e arrondissements. Les eaux ont non seulement englouti certaines avenues, mais aussi ravagé des centaines de maisons de commerce et d'habitations. Plusieurs sinistrés pointent du doigt un manque de canalisation dans leur quartier et l'indifférence des autorités de Bangui face à leur situation. Pour exprimer leur colère, une dizaine de mécontents, torse nus, shorts et pantalons trempés, ont barricadé une partie de l'avenue de la Paix dans le 5e arrondissement.
Le problème d'inondation qui a amené quand on a barré la route, ça fait 2 ou 3 mois qu'on est soufflé ici à la cause d'inondation. Toutes les maisons sont tombées avec les enfants dedans. Donc c'est pour cela qu'on a barricadé la route. Il y a l'eau, ça coulait la maison pratiquement. C'est pour cela qu'on a barré la route.
Les dégâts sont aussi énormes dans le 4e arrondissement, précisément dans les localités longeant le canal Ngoubagara. Jusqu'à ce lundi matin, aucun bilan exact n'était encore disponible, car de nombreuses familles s'attendaient au pire avec leurs habitations coincées au milieu des eaux. De leur côté, les autorités de Bangui n'ont pas encore officiellement réagi à cette catastrophe qui n'en est pas à son premier dégât dans la capitale. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La Tanzanie a réservé des funérailles nationales dimanche aux victimes du naufrage du ferry qui a fait au moins 224 morts la semaine dernière. Le navire transportait près de trois fois le nombre de passagers autorisés, Abdourahmane Dia.
Au cours d'une cérémonie sur l'île d'Ukara, au large de laquelle le ferry a chaviré, le Premier ministre Kassim Majaliwa a évoqué un grand deuil pour la nation tout entière. Symboliquement, une dizaine de cercueils ont été placés dans des tombes individuelles, notamment ceux contenant des corps qui n'ont pu être identifiés. Les autres cercueils seront mis à terre plus tard ou ont été amenés par des proches souhaitant des funérailles plus intimes. Les représentants de plusieurs confessions religieuses se sont relayés au micro hier pour des brèves prières et de gerbes de fleurs ont été déposées devant les cercueils. Les drapeaux, comme à travers tout le pays, étaient en berne. Le Premier ministre a indiqué qu'un mémorial serait érigé à Ukara. Les opérations de recherche des corps se poursuivent et des travaux en vue de sortir le ferry du lac continuent, même si, selon le ministre des Transports, l'essentiel est fait. Les autorités ont annoncé l'arrestation de toutes les personnes chargées de la conduite et de la supervision du navire.
12 membres d'équipage d'un navire battant pavillon suisse ont été enlevés ce week-end au large du Nigeria. L'information a été confirmée par le porte-parole de la compagnie suisse de transport maritime, Massoel Shipping. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon le communiqué de l'armateur suisse rendu public hier, un groupe de pirates a réussi à monter sur le pont du Glarus, se servant de hautes échelles et ont coupé les barbelés de protection. Après avoir détruit une grande partie de l'équipement de communication sur le navire, le groupe est parti avec 12 des 19 membres de l'équipage qu'ils ont pris en otage samedi, indique le texte. Patrick Adamson, porte-parole de Muscle Shipping, a expliqué qu'il s'agit de la deuxième attaque de cette envergure cette année dans le delta du Niger, région pétrolière au sud-ouest du Nigeria. Habituellement, les pirates ne donnent aucune nouvelle pendant les premières 48 heures de l'enlèvement, donc nous attendons d'avoir des nouvelles, souligne M. Adamson, qui précise que pour la sécurité des otages et le respect des familles, ni leur nationalité, ni leur identité ne seraient dévoilées. Alors que la situation s'est apaisée dans le golfe d'Aden, à l'est du continent au large de la Somalie, c'est désormais le golfe de Guinée, avec ses 5700 km de côte, qui est devenu le nouvel épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Plus de 60 membres d'équipage au total ont été enlevés en 2017 au large du Nigeria.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le magazine The New Yorker a signalé hier une nouvelle accusation d'inconduite sexuelle contre le juge Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême. Deux sénateurs seraient en train d'enquêter sur les accusations d'une autre femme, Deborah Ramirez. La Maison-Blanche a publié un communiqué du juge parlant de dénigrement pur et simple. Entre-temps, Christine Blasey Ford, la première femme à accuser M. Kavanaugh pour agression sexuelle en 1982, a accepté de témoigner jeudi devant la commission judiciaire du Sénat.
Le président américain Donald Trump est resté inhabituellement silencieux à la veille de nombreuses rencontres qu'il doit avoir cette semaine à New York avec d'autres dirigeants du monde à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies. Mardi, le président Trump s'adressera à l'Assemblée générale et mercredi, il présidera une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU dont les États-Unis assurent ce mois-ci la présidence. Cette réunion axée sur l'Iran inclura d'autres sujets, a dit la représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley.
Concernant justement l'Iran, Mme Haley a condamné hier l'attaque perpétrée samedi en Iran lors d'un défilé militaire, attaque dans laquelle 24 personnes ont été tuées. Mais la diplomate américaine rejette les accusations de Téhéran, Abdourahmane Dia.
Les États-Unis condamnent toute attaque terroriste n'importe où, a déclaré Nikki Haley. Téhéran, qui privilégie la piste séparatiste arabe, a accusé, selon ses termes, un petit État du Golfe d'être derrière l'attentat. Tous ces petits pays mercenaires que nous voyons dans la région sont soutenus par les États-Unis. Ils sont encouragés par les Américains à dénoncer le président iranien Hassan Rouhani. En réponse, l'ambassadrice américaine à l'ONU a déclaré que Rouhani devait regarder chez lui. Il fait face à des Iraniens qui protestent. Tout l'argent qui va à l'Iran va dans son armée. Il opprime son peuple depuis longtemps. Fin de citation. Les Émirats arabes unis ont nié tout lien avec l'attentat, accusant Téhéran de mener une campagne contre Abu Dhabi. Le Qatar, le Koweït et le Sultanat d'Oman ont condamné séparément dimanche l'attaque.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
La Banque mondiale, l'Allemagne et le Japon vont financer plusieurs projets de développement au Rwanda. Environ 99 millions de dollars serviront dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures, la décentralisation, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, la gestion des finances publiques et la croissance verte. 38 000 ménages d'agriculteurs devraient en bénéficier, dont 88 000 femmes. L'Afrique subsaharienne regroupe 56% du total des personnes extrêmement pauvres dans le monde. D'après le nouveau rapport triennal de la Banque mondiale, ils sont 413 millions ayant un revenu de près de 2 dollars par jour. Ce rapport indique aussi que la pauvreté extrême frappe désormais 41,1% de la population de l'Afrique subsaharienne contre 12,4% seulement en 2002. Sur les 27 pays de la planète qui comptent le taux le plus élevé de pauvreté, 26 sont aujourd'hui situés en Afrique. Et pour finir, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, a injecté 279 milliards de francs CFA dans le financement de divers projets au Cameroun. La BDAC a concentré ses investissements ces dernières années au Cameroun sur la construction des infrastructures, notamment dans le domaine des transports et de l'énergie. On peut citer par exemple la construction de la route Sumelina au Cameroun et Wesso au Congo-Brazzaville. Néanmoins, la finalisation de ce projet routier côté camerounais se heurte à des difficultés depuis quelques années.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec les quarts de finale retour de la CAF et ça passe pour Enyimba et le Raja de Casablanca.
Oui, après le match nul concédé à l'aller 0-0, les Nigériens ont dominé les Rwandais de Rayon Sport sur le score net de 5-1. Enyimba, habitué à briller en Ligue des Champions, se hisse pour la première fois en demi-finale de cette Coupe de la Confédération et affrontera en demi-finale le Raja de Casablanca. Tombeur des Congolais de Kara, déjà vainqueur au Congo à l'aller, les Marocains ont validé leur billet pour les demi-finales en écartant le Kara de Brazzaville 1-0. Buteur après 4 minutes de jeu, l'ajout permet aux Marocains de rejoindre les Nigériens d'Enyimba en demi-finale.
El Masri sera aussi présent lors du dernier carré de cette Coupe de la CAF.
Les Égyptiens ont battu l'USM Alger en Algérie sur le même score qu'au match aller 1-0, déjà buteur à l'aller. Le Palestinien Wadi a inscrit le seul but de la partie en faveur du club égyptien pour lui permettre d'affronter l'ASV Club. Le club de Kinshasa, après sa victoire 3-1 à domicile à l'aller, a connu quelques frayeurs mais a ramené le nul du Maroc contre la Renaissance de Berkane 1-0. Les matchs aller de ces quarts de finale sont prévus pour le 3 octobre avant les manches retour le 24 du même mois.
Quart de finale retour également en Ligue des Champions et on connaît aussi les équipes qualifiées pour les demi-finales.
Et ce sera sans le Wydad de Casablanca. Le tenant du titre a été éliminé par l'Entente de Sétif, vainqueur 1-0 à l'aller. Les Algériens sont allés arracher le nul 0-0 au Maroc. Ils affronteront les Égyptiens d'Al Ahly du Caire, victorieux des Guinéens de Oroya 4-0. L'autre affiche des demi-finales va mettre aux prises les surprenants Angolais du 1er Agosto, tombeurs des Congolais du TP Mazembe à l'Espérance de Tunis, vainqueur de l'Étoile du Sahel dans le derby tunisien. Les matchs allés de cette demi-finale auront lieu le 2 octobre prochain.
Football toujours et au Bénin, la Fédération de football a tenu une réunion extraordinaire avec les clubs de première et deuxième division.
Oui, et c'est au siège de la Fédération à Porte-Novo. Plusieurs points ont été abordés, notamment le nombre de clubs qui vont prendre part à cette saison 2018-2019, 19 en Ligue 1 tout comme en Ligue 2. Le tout à travers un championnat linéaire. Il a été aussi question de la mise en place des différentes structures qui devront gérer le championnat. La question de subvention a été abordée et les clubs seront satisfaits avant la troisième journée. Et puis, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football a apporté un accent spécial sur l'enregistrement des joueurs. À cet effet, 30 joueurs seront enregistrés par club, 20 nationaux et 10 étrangers, dont 5 seront sur l'aide de jeu à chaque journée. Ceci pour faire la promotion des footballeurs béninois. À noter que la saison sera lancée le 29 septembre prochain au stade municipal de Parakou.
Basketball avec le mondial féminin 2018, victoire historique du Sénégal.
Battu d'entrée par les États-Unis, les Lions ont lutté jusqu'au bout hier pour finalement battre in extremis la Lettonie dans les derniers instants de leur deuxième matchs dans le groupe D, score 70-69. C'est la première fois qu'une équipe africaine s'impose dans un match de poule de cette compétition. Le Sénégal, qui doit encore affronter la Chine, a quasiment son billet pour le match de barrage menant au quart de finale.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les populations du Poul restent sceptiques quant aux armes que remettent les ex-combattants ninja, qui ne seraient généralement que des fusils de chasse. Mais pour la commission de ramassage des armes, tel n'est point le cas. Reportage sur place à Kinkala du correspondant de VOA Afrique, Arsène Séverin.
De nombreux habitants du Poul estiment que les armes que remettent les ex-combattants ninja ne sont vraiment pas celles dont la détonation les a terrorisés pendant de longs mois du conflit armé. Selon ces populations, les armes remises ne sont en effet pour la plupart que des fusils de chasse. Nestor Ntieté, un habitant de Kinkala.
Ça ne nous rassure pas tellement parce que peut-être pas, il n'y a pas de banditisme. Mais est-ce que réellement les armes qui ont été remises sont celles-là? Est-ce que c'est vraiment le nombre? Parce qu'il faut que dans les confins des villages, il faut que les gens reprennent. Mais avec des hommes en armes qui pensent je ne sais pas à quoi, ça pose des problèmes.
Pour rassurer la population et lever tous ses doutes, Séraphin Ondélé, président de la commission de paix dans le Poul, a été obligé d'ouvrir exclusivement à VO Afrique son dépôt de stockage d'armes collectées.
Ce qui est dans les cartons, dans les sacs là, sont des armes. Très bien. Alors je vais te montrer le deuxième magasin. Là aussi on a fait des fusils de chasse, on les a mis de côté. Tous ces gens en parlent. Oui, regarde, c'est ça qui détruit les ponts. Avec leur détonateur. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Et des roquettes et des grenades.
Comme on a dit au départ, les gens, les ex-combattants étaient hésitants. Le message est passé à plus de deux reprises, le patient Tommy l'a lancé. Et donc voilà, là on est au-delà de toutes nos prévisions. Vous avez vu la quantité d'armes, la nature des armes. Ça dépasse largement toutes nos prévisions. Ils arrivent individuellement, de jour comme de nuit. Ils remettent leurs armes, moyennant un kit que vous avez pu voir, et donc ça se passe très bien. Et comme j'ai dit, vraiment, c'est un afflux incroyable.
Venu librement et volontairement remettre ses deux Kalachnikovs, le colonel Korombo, un chef des Kiru Ninja, déclare que pour eux, la guerre est définitivement terminée et les armes sont effectivement rendues.
C'est nous, vraiment, c'est nous, c'est fini. Peut-être eux, mais sinon c'est nous, il n'y a pas la guerre. Parce que notre chef, c'est un porteur de lapin. Nous tous, on doit se nourrir cette lapin-là. Quand je donne ça, il m'a donné un petit danger pour que je vive avec ça. Je suis militaire d'abord, la classe 96, la 9-6. Malheureusement, comme ça, je retrouve au Brousse parce que c'est le pays qui m'a organisé. Maintenant là, on a tout le dos pour le lapin.
Vouzaz, un autre ex-combattant, après avoir déposé son arme au guichet de Kinkala, appelle le gouvernement à organiser leur réinsertion socio-professionnelle.
Pour nous, les ninjas et le pasteur Ntoumi, la guerre est finie. Si un jour les hostilités reprenaient, ce ne serait pas de notre faute, car nous avons tout remis. Maintenant, il faut vite passer à la réinsertion. Cela nous permettra de commencer d'autres activités socio-économiques.
Avec une arme échangée contre 100 000 voire 150 000 francs CFA, les ninjas gagnent des petites cagnottes qui leur permettent d'acheter des motos. Les autorités s'apprêtent à lancer l'identification des ex-combattants en vue de leur réintégration. De retour de Kinkala dans le Poul, Arsène Séverin, VOA Afrique.
L'Union africaine a achevé à Douala 8 jours d'exercice post-commandement baptisé Imdad Africa One. L'exercice consistait à tester les processus de soutien aux futures missions de l'organisation. Il s'agissait notamment de planifier un éventuel déploiement rapide d'une opération de soutien à la paix mandatée par l'Union africaine. Notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap, a suivi ce tout premier exercice logistique de l'Union africaine.
L'Union africaine se dit désormais confiante. En cas de crise dans un pays africain, le transport rapide de sa logistique depuis la base continentale de Douala se fera dans les délais requis. Lieutenant-colonel Moussavou de l'armée gabonaise, un participant à l'exercice de la force de l'Union africaine à Douala.
Sur la base de la simulation que nous avons eu à faire, l'exercice a été déployé en fait en deux temps. Il s'agissait d'abord d'une intervention rapide et juste après, on devait passer à la phase de stabilisation.
mobilisation. En préparatif, en cas d'urgence, en une quinzaine de jours, le dispositif doit être mis en place.
Au cours d'une opération de soutien de la paix, il faut livrer aux troupes le matériel roulant ou encore apporter le soutien médical. Tout ceci obéit à certaines procédures acquises par les hauts gradés des armées africaines, des attachés de défense et commandants de guerre lors de ce tout premier exercice logistique. Le général de division, Nakibus Lakara de l'Ouganda, directeur de la logistique lors de l'exercice post-commandement de l'Union africaine à Douala.
Après cet exercice, nous espérons que l'Union africaine prendra en compte les recommandations de cet exercice IMDAD Africa One et va les mettre en œuvre comme un fondement pour les exercices et opérations à venir.
Ces recommandations sont restées secret défense. Le haut commandement de l'Union africaine dit cependant être prêt pour les missions à venir. Le colonel Morceau du Sénégal, coordonnateur de l'exercice post-commandement de l'Union africaine à Douala.
Les objectifs ont été largement atteints. Il s'agissait de tester et de valider les procédures de soutien de nos missions, les missions de l'Union africaine, de manière à pouvoir mettre en place tout le soutien nécessaire pour que nos missions soient effectivement et d'une façon efficiente soutenue sur le plan logistique.
L'aspect administratif des procédures d'intervention de l'UA a également été revisité pendant les 8 jours passés à Douala, avec au bout une meilleure appropriation par les participants. Alemu Koumneguer, chef unité logistique à la Commission de l'Union africaine, croit que l'essentiel a été fait.
Cette formation les rendra davantage prêts parce que certaines choses qui se faisaient avant n'étaient pas en droite ligne avec les procédures dur que l'Union africaine exige d'eux. Maintenant, cette formation a renforcé leurs capacités et les rendra davantage prêts.
Aucune annonce n'a été faite sur le prochain exercice militaire des troupes de l'Union africaine. L'unique du genre s'est tenu en Afrique du Sud en 2015. Emmanuel Jumtap, de retour de Douala, VOA Afrique.
Au Sénégal, sécurité routière avec la numérisation des permis de conduire. La première partie de ce projet concerne les permis de conduire et chaque usager devra débourser 10 000 francs CFA pour obtenir un permis biométrique. Cette initiative recueille déjà le soutien des usagers, même s'ils reconnaissent qu'il sera difficile de passer le cap sans difficulté. Reportage à Dakar du correspondant de VOA Afrique, Seydina Abagay.
Un projet innovant qui va transformer l'administration des transports routiers avec la gestion de l'identité des détenteurs de permis de conduire, l'enregistrement rigoureux des véhicules en circulation et l'éradication des faux titres de transport. Pour les usagers, la numérisation est devenue une nécessité. Elhadj Baledjey, un conducteur, estime que cela participe à l'amélioration de la sécurité routière.
Je trouve que le fait de mettre en place une base de données, un système informatique qui va permettre à l'autorité, qui va permettre à l'agent, mais de savoir un certain nombre d'informations sur la personne, sur le chauffeur. Ça, déjà, c'est une bonne chose, parce qu'on est au Sénégal, il y a tout. Il y a des gens qui sont serrés, il y a d'autres qui ne sont pas serrés. Il y a des gens recherchés, etc. Donc, c'est bien pour avoir plus de sécurité, quand même. Si on arrive à mettre en place tout le matériel qu'il faut et avoir des agents assermentés, parce que, quand même, derrière, il y a un contrôle et une sanction.
L'innovation majeure de ce projet est la présence du groupe sanguin sur le permis biométrique. Un autre conducteur, Yakusei, pense que cette nouveauté sur le permis doit être étendue à d'autres services.
Je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où cela va éradiquer la fraude sur les permis. Mettre le groupe sanguin aussi est une bonne chose. Mais pour moi, ils ne doivent pas le limiter au permis parce que le chauffeur n'est pas le seul à bord. En cas d'accident, les passagers auront aussi besoin de sang. Donc, il faudra penser à mettre le groupe sanguin des gens sur les cartes d'identité, par exemple, pour permettre une meilleure prise en charge sanitaire en cas d'accident.
La numérisation du permis de conduire rentre dans le cadre global de la modernisation de l'administration des transports initiée par la direction des transports routiers. Modoukan Diaw, chef de division des politiques et de la planification, éclaire sur la motivation du projet.
Le système de délivrance des titres a été informatisé, mais suite à un audit, on a vu qu'effectivement le système sur lequel nous travaillons, la plateforme sur laquelle nous travaillons, est très limitée. Donc suite à cela, effectivement, On a mis à niveau notre système informatique pour travailler vers un guichet unique pour dématérialiser les procédures. Maintenant, pour ce qui est des titres, des supports, ils étaient en support papier, falsifiables, et on a constaté qu'il y avait beaucoup de documents faux en circulation. Il fallait sécuriser et numériser les titres.
Au-delà de la sécurisation et de la numérisation des permis, d'autres leviers vont être activés pour renforcer la sécurité routière. Dans un pays qui compte une population majoritairement non alphabétisée, les autorités comptent réformer l'examen du code de la route et l'adapter aux réalités locales. Bientôt, les candidats auront à leur disposition un système audiovisuel traduit en 6 langues nationales pour une meilleure maîtrise du code de la route. Pour rappel, au Sénégal, les accidents de la route ont fait 635 morts en 2017. À Dakar, Seydina Aba Gueye pour VOA Afrique.
Pour terminer, culture et danse, couleur vacances, c'est l'une des plus grandes compétitions de danse urbaine en Afrique de l'Ouest. Et c'est à Bobo-Dioulasso, deuxième plus grande ville du Burkina Faso, que s'est tenue la finale de l'édition 2018. À l'arrivée, c'est le Togo qui est le vainqueur, nous dit le correspondant de VOA Afrique, Lamine Traoré.
Grosse ambiance à la maison de la culture de Bobo-Dioulasso, à près de 400 km de la capitale burkinabé. Des groupes de danse de 7 pays étaient en compétition au départ, mais pour cette finale, il n'en reste que 5, dont 2 groupes du Burkina, un du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Mali. La compétition se déroule en 2 phases, une première en chorégraphie, et les meilleurs groupes issus de cette étape tiennent un face-à-face. Le challenge est immense, car 2 millions de francs CFA sont offerts aux vainqueurs. Le Togo l'emporte devant la Côte d'Ivoire. Mais l'intégration africaine est en marche et le groupe togolais l'a bien compris. Joseph Adando est le représentant du groupe.
On s'est préparé dur, ça fait des années qu'on poursuit les trophées. Donc cette année, on est sorti pour ramasser tout là. En Afrique, nous avons besoin de l'unité, que la force réside dans l'unité. Nous avons montré cette année comment les peuples doivent s'intégrer. Comment l'unité doit régner en Afrique pour qu'on puisse aller de l'avant.
Chez les filles, la première place s'est jouée entre Burkinabé. Le groupe Airways est classé première. Jamilatou Malgoubri, représentante du groupe.
On a trop d'émotions, on ne sait pas quoi dire. C'était vraiment formidable. Quand on savait que nos adversaires n'allaient pour rien faire comme nous. Elles n'avaient pas le niveau, mais elles ont forcé. Elles ont testé et elles ont détesté par la fin. Ce n'est pas le même level.
Les organisateurs de Couleurs Vacances, eux, sont satisfaits, car c'est encore l'Afrique qui aura gagné. Abba Soufiane Koulibaly est le promoteur.
La couleur du passeport des vainqueurs n'avait pas d'importance. La plus belle des victoires, c'est cette réunion de toute la jeunesse sous-régionale ici à Bobo-Dioulasso, qui est une ville symbole, parce que Bobo, c'est le carrefour de toutes les hospitalités ouest-africaines. Réussir à réunir toute cette jeunesse venue du Mali, du Togo, du Bénin, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, ici à Bobo-Dioulasso, c'est la plus belle des victoires.
Couleurs Vacances, édition de 2018, s'arrête là. Depuis plus d'une dizaine d'années, cet événement s'est positionné comme l'un des rendez-vous majeurs des vacances. Il draine des milliers de jeunes du Burkina Faso et du reste de l'Afrique. Les vacances sont donc terminées. Place maintenant à l'école. Lamine Traoré, Bobo-Dioulasso, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.